Bonjour Jean-Louis Coëtrieux.
Bonjour.
Alors vous êtes directeur de recherche émérite à l'INSERM et spécialiste de l'imagerie numérique médicale. Vous avez notamment été conseiller au ministère de la Recherche pour les technologies pour la santé et vous avez dirigé pendant 20 ans le laboratoire du traitement de l'image et du signal à l'université de Rennes. Alors première question, pourquoi vous avez choisi d'orienter vos recherches vers l'imagerie médicale? Qu'est-ce qui vous a attiré dans ce domaine?
C'est le hasard en fait. Hein. J'ai commencé mes travaux dans le domaine médical sur le traitement du signal, donc les classiques, cardiologie, électroencéphalographie, etc. Et puis aussi sur la neurologie périphérique. Et puis bon, peut-être que le traitement du signal finalement n'était pas si important que ça, et est arrivé dans le paysage une révolution à un moment donné, qui était celle du scanner, celle de l'IRM. Là, on est dans les années 70, début des années 80, hein, ça fait 40 ans. Et donc, c'était trop tentant. Passer du signal qui est scalaire, c'est-à-dire un D, une dimension, à du 2D, et puis après à du 3D, vous vous rendez compte. On peut regarder en volume les corps humains, on peut couper virtuellement, bien sûr, hein, pour aller voir dedans, etc. C'est fabuleux, une aventure fabuleuse. Donc j'ai eu la chance d'être dans cette génération où il y a eu une rupture considérable dans les moyens d'exploration du corps humain.
Et d'un coup, beaucoup de portes qui s'ouvrent aussi pour la recherche, pour améliorer ces systèmes-là.
Absolument.
Est-ce que justement, ça vous a permis de développer des connaissances un peu transversales, j'imagine, aussi bien en médecine qu'en physique?
Oui, ah bah oui, parce que quand on va travailler dans le domaine médical, on apprend avec les cliniciens, avec les professeurs de médecine, etc. Donc, moi, je ne savais rien au départ. Hein. J'étais comme tout le monde, un petit peu d'anatomie, c'est tout, mais physiologie, je connaissais quasiment rien. Donc j'ai appris avec eux, en avançant avec eux. En fait, c'est ça qui est l'aventure, la belle aventure, c'est celle-là, c'est d'avancer avec les autres.
Est-ce qu'il y a eu des étapes marquantes ou des rencontres marquantes dans votre parcours scientifique jusqu'à aujourd'hui?
Ah, il y en a eu plein. Plein. Je pense qu'au niveau international surtout, il y a des moments dans une carrière de chercheur, on arrive à la croisée des chemins. Pour vous donner un exemple très court, j'ai été sollicité un jour par des Américains pour venir travailler avec eux sur le plan international. Et je me suis posé la question, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste dans ma petite Bretagne, ma petite France, etc. ou est-ce que je me lance? Je ne parlais pas bien anglais. Comme beaucoup, je pense, encore aujourd'hui. Et donc, je me suis dit, je vais faire un stage d'anglais. Donc, j'ai fait mon stage. En revenant de mon stage, je ne parlais pas bien mieux anglais, mais je n'avais plus peur de parler. Et c'est ça qui m'a permis, après, j'ai dit oui, bien sûr. Donc, je suis allé travailler avec les Américains sur l'animation scientifique, hein, pas sur des projets de recherche. Mais le fait de plus avoir peur de parler, finalement, c'est ça qui a ouvert toutes les portes après.
Et justement, ce soir, vous allez parler, justement, transmettre vos connaissances lors d'une conférence à l'Espace des sciences, des neurones virtuels, donc à l'intelligence artificielle, c'est le titre de cette conférence. En quoi l'intelligence artificielle a participé, justement, au progrès aussi dans le domaine de l'imagerie médicale?
Alors, pas directement au départ. Je vais prendre quelques exemples ce soir, hein. Donc ça rendra un petit peu plus
interactif,
concret, les choses. Non, il y a beaucoup de recherches qui ont été faites pour l'amélioration de l'imagerie, justement, qui n'ont pas eu besoin de l'intelligence artificielle. Hein. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, avec les réseaux de neurones en particulier, eh bien il y a des problèmes qui sont mieux résolus que qu'on avait avant. Donc là, il y a un apport très clair, mais il est relativement récent. Hein, parce que vous savez, en science, des fois, on a aussi ce qu'on appelle des traversées du désert. Et les réseaux de neurones, ça a démarré dans les années 1940, hein, des choses comme ça. Donc, vous rendez compte, 80 ans en arrière.
Les réseaux de neurones artificiels, c'est ça?
Oui, les neurones artificiels. Ah oui, non, les autres.
Non, mais pour préciser aussi.
Et donc, il y a eu une traversée des déserts pour ceux qui travaillaient sur les réseaux de neurones dans les années 70-90. Et c'est étonnant d'ailleurs de voir ça. Dans le monde scientifique aussi, on a des effets de mode. Là, on est en pleine mode de réseau de neurones. Alors je me disais, bon, c'est quand même intéressant d'aller voir d'un peu plus près ce qu'ils sont capables de faire et de nous dire.
Et justement, ces réseaux de neurones artificiels ou Artificial Neural Network en anglais, est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu, quelle forme ça prend concrètement et sont les applications de ces réseaux de neurones?
Alors, oui, en un mot, c'est difficile, mais en fait, le neurone, vous voyez un corps cellulaire, un axone, quelques dendrites et quelques connexions au bout de l'axone. C'est une structure très, très simple. Eh bien, il y a un monsieur, un jour, qui s'est dit on peut peut-être en faire un modèle. Et il a fait un modèle hyper simple. C'est un modèle dans lequel vous avez les entrées, qui sont les dendrites, en fait. Vous avez des pondérations qui vont s'appliquer sur ces entrées. Et vous avez une sorte de sommation avec une fonction un peu compliquée, et puis une sortie. Donc une sortie, des entrées, une petite fonction entre les deux, et voilà, c'est le neurone formel. Et à partir de cette simplification absolue, vous les assemblez dans des réseaux, c'est-à-dire vous les mettez ensemble, hein. Ils sont tous connectés entre eux ou pas, et puis ces petits systèmes-là, bah vous mettez des données à l'entrée, et vous les faites apprendre, les différentes catégories de données. Il classifie en fait. Mmh. Hein. Et puis vous avez des systèmes capables de reconnaître les visages, de traduire le langage, voilà, plein de choses magiques après.
Donc finalement, on s'inspire d'un modèle biologique qu'on transpose à l'électronique
et
l'informatique.
Hyper simple en plus. Tout le monde peut le comprendre.
Tout le monde peut le comprendre. Mais concrètement, ça se traduit par des cartes électroniques, ce genre de choses.
Alors oui, surtout des logiciels actuellement.
Des logiciels.
Mais demain, oui, il y a des gens qui se passionnent pour réaliser ça sur du silicium, sur d'autres supports. Après, bon, on pourra faire des systèmes embarqués, comme on dit, c'est-à-dire dans les téléphones, dans tout un tas d'objets qu'on porte sur nous, quoi.
Ouais, donc il y a une grande ouverture à l'application de cette technologie. Et vous le mentionnez tout à l'heure, il y a aussi un mécanisme d'apprentissage, d'intégration de données et d'apprentissage, ce qu'on appelle le machine learning.
Oui.
C'est en lien aussi justement avec ces réseaux de neurones, comment
Alors,
ça fonctionne?
Le machine learning, c'est beaucoup plus général.
Large. Ouais.
Beaucoup plus large. Il y a plein de méthodes statistiques qui ont été en concurrence justement avec les réseaux de neurones pendant longtemps. Multitude de méthodes qui sont à notre disposition. Il se trouve simplement que depuis quelques années, les réseaux de neurones sont plus performants. Mais le machine learning en tant que tel, il existe depuis 40, 50, 60 ans. Donc,
Donc dans les différentes technologies qu'on peut retrouver dans l'intelligence artificielle, où se placent justement ces réseaux de neurones? Voilà, ça, c'est la majorité de l'intelligence artificielle.
Oui. Ouais. Aujourd'hui, oui. Ils ont balayé toutes les autres méthodes.
D'accord.
Alors, ça ne veut pas dire que l'histoire est finie, hein. Parce que, bon, peut-être qu'il va y avoir quelque chose qui va être trouvé, qui va être encore meilleur demain.
Est-ce qu'il y a des limites aussi à ces réseaux de neurones artificiels? Par exemple, écologiques, ou, enfin, peut voir ça d'un angle très divers, des limites aussi en termes de technologie?
Alors, écologique, je ne sais pas, parce que comme tous les systèmes, ils sont consommateurs d'énergie, hein, comme Internet. Hein, Internet est un très, très gros consommateur d'énergie. Alors, pour nourrir les réseaux de neurones, il faut des données. Qui dit données, dit stockage de ces données. Donc là, on trouve des serveurs, et là, c'est très consommateur d'énergie. Il y aura sans doute des améliorations qui se feront avec le temps. Mais effectivement, ces techniques-là ne sont pas forcément très, très écologiques du point de vue énergétique.
En tout cas, c'est quelque chose sur lequel les chercheurs travaillent, j'imagine. Et
oui,
des grands défis de demain.
Toujours rendre plus efficace, moins consommateur, etc. Ouais.
Et quelles sont les grandes applications peut-être de demain? Est-ce qu'il y a des projets, des choses qu'on peut envisager en exploitant ces réseaux de neurones artificiels?
Je crois qu'il peut y avoir tout ce qui concerne notre vie peut être concerné par ces techniques de machine learning et de réseaux de neurones. Donc, on connaît les grandes applications déjà. Hein, c'est le traitement de la parole, c'est la reconnaissance des visages, Mais après, il y a plein d'applications militaires. Oui, ça va déborder partout. Je pense qu'il va y avoir des systèmes qui sont capables de classer les odeurs, les parfums, les choses comme ça. Donc, oui, je crois qu'il va y avoir. Je crois qu'on n'est même pas capable d'imaginer toutes les applications qui peuvent exister demain.
Donc un très grand terrain de jeu pour les chercheurs.
Bonne ou mauvaise.
Oui, bonne ou mauvaise, bien sûr. Ouais. Et alors pour revenir à vous, vous êtes en plus d'être scientifique, vous êtes également écrivain. Vous avez publié des essais, des poèmes, des nouvelles. J'ai pu lire sur vous, Jean-Louis Coatrieux n'est pas un scientifique qui écrit, il est un poète qui excella dans la science, ce qui est loin d'être incompatible. Qu'est-ce que vous pensez de cet extrait? Et comment vos deux disciplines, justement la recherche, l'écriture, tout ça, ça se complète pour vous?
Je crois, l'histoire serait peut-être un peu longue là, mais je pense que quand on fait de la recherche, ou quand on écrit, je pense qu'il y a des mécanismes qui finalement sont les mêmes. C'est-à-dire que écrire, c'est la curiosité, écrire, c'est de l'imagination, c'est construire des personnages, construire des choses qui n'existent pas forcément encore. Et en recherche, c'est ça aussi. C'est-à-dire, il y a des intuitions, il faut à un moment donné qu'il y ait des intuitions, il faut qu'il y ait des chocs entre deux idées qui a priori n'ont rien à voir et qui vont se retrouver, et ça va être l'émergence de quelque chose de nouveau. Donc je pense que les mécanismes qui sont à la base de la création, quelque part, sont un peu les mêmes. Après, quand on est chercheur comme moi dans une discipline où il y a un peu de maths, il faut quand même avoir quelques qualités pour manipuler les mathématiques. Quand on écrit, c'est sûr qu'il faut avoir, il faut aimer la langue, je crois aussi, et puis avoir ce goût de la langue, ce goût des mots, et donc avoir deux, il faut des instruments quelque part à un moment donné. Mais le point de départ, je crois que les points de départ sont très très proches. Quoi.
Et justement, est-ce qu'on peut envisager que la science puisse se mettre au service aussi de l'écriture? Notamment, je pense à l'intelligence artificielle, on a vu qu'il y avait plein de champs d'application possibles. Est-ce que, justement, il y a moyen de faire un lien entre l'art et la science à ce niveau-là?
Avec l'intelligence artificielle, alors je ne sais pas à quoi on peut penser, là. Effectivement, c'est des questions intéressantes, pour moi en particulier.
On parlait de traduction tout à l'heure, c'est vrai que c'est assez
alors
proche.
Ça, là, je mentionnais mon ami Albert Bensoussan, parce que c'est un des traducteurs, des plus grands traducteurs de l'espagnol aujourd'hui en France. Là, c'est clair que sur le plan de la traduction, les traducteurs sont en danger.
Puisque l'intelligence artificielle tend de plus en plus à remplacer avec les traducteurs automatiques.
Il y a déjà des performances très significatives sur de la littérature. Parce que si vous voulez traduire une notice technique, par exemple, d'une langue à une autre, alors là, il n'y a pas de problème. Vous prenez Google Translate, qui est très mauvais, en fait. Et il doit vous faire une notice technique à peu près correcte.
Et j'ai aussi lu dans une précédente interview que vous vous inquiétiez un peu pour les jeunes chercheurs et chercheuses. Vous disiez « le monde change, ça devient de plus en plus difficile pour eux, ne serait-ce que d'entrer dans un institut de recherche ». Et quant à l'évaluation, elle est basée non plus sur la qualité, mais sur la quantité des publications. Quel est votre avis justement sur le monde de la recherche? Est-ce que vous partagez toujours
Oui, c'est une préoccupation qui est partagée, je pense, par d'autres collègues. En début de carrière, moi, j'ai eu la chance de pouvoir choisir dans quelle direction je voulais travailler. J'ai commencé à travailler sur des sujets qui sont complètement... c'était des diélectriques, donc on mesurait des bruits sur des diélectriques. Puis ça ne m'intéressait pas du tout. Et donc, je suis allé voir mon directeur de laboratoire, je lui ai dit, écoutez, je ne me vois pas passer ma vie sur des mesures de bruit dans les diélectriques. Par contre, j'ai envie de travailler de manière utile, peut-être, dans la médecine. Et voilà, et à cette époque-là, c'était possible. Aujourd'hui, non. C'est-à-dire que pour rentrer dans un grand organisme, il faut que vous ayez déjà fait la preuve que vous êtes déjà bien avancé dans des sujets. Et c'est vrai que la liberté est plus réduite. La carrière, évidemment, si vous ne suivez pas le bon chemin, elle en pâtit. Et en même temps, on vous force à... à publier le plus possible, même si le résultat n'en vaut pas la peine, quoi. Il y a eu quelques directeurs, en particulier à l'INSERM, mais ça remonte à loin, c'était Philippe Lazare. Il venait nous voir en commission de sélection. Il nous disait laissez les chercheurs tranquilles. S'ils ont besoin de 2-3 ans pour changer de voie, pour faire quelque chose d'intéressant auquel ils croient, laissez-les tranquilles. Mmh. Eh ben aujourd'hui, je ne crois pas qu'on dise encore, qu'on entende encore ce genre de choses, et c'est vraiment dommage.
Mmh. Non, merci beaucoup, Jean-Luc Ouattrier.
Merci, un plaisir.